Chapitre 6. L'affaire prenait une tournure à laquelle le juge de paix, malgré toute sa malice, était certes loin de s'attendre. Habitué à regarder Julien Taillefer comme le modèle de la plus scrupuleuse probité, il était à 100 lieues de supposer qu'il pût jamais être soupçonné par n'importe qui. Son arrestation, annoncée juste à l'instant où il prenait sa défense, jetait à terre l'échafaudage de ses conjectures. Aussi était-ce autant pour mettre un terme aux silencieuses goguenarderies du marquis que pour se renseigner lui-même qu'il venait d'ordonner la comparution immédiate du brigadier. Cet humble serviteur de la loi, homme de beaucoup de sens et de fermeté, possédait toute son estime, et il savait par expérience qu'il en apprendrait plus avec lui en 2 minutes qu'avec tous les témoins du monde en une demi-journée. « Je viens d'apprendre, lui dit-il, qu'à la suite de l'attentat qui a été commis, il y a quelques heures, à l'entrée du bois de Bellefontaine, et d'après les instructions que je vous ai transmises, vous aviez cru devoir vous assurer de la personne de M. Taillefer. Avant de procéder à l'interrogatoire du prévenu, je vous prierai de me faire connaître, le plus brièvement possible, les raisons qui vous ont déterminé à appréhender cet homme. » « La première de ces raisons, répondit le brigadier, et la meilleure, selon moi, est la clameur publique qui poursuivait M. Taillefer avec une surprenante unanimité. Malgré tout ce que ces accusations répétées pouvaient éveiller de soupçons, surtout après l'incident qui a eu lieu cet an dernier chez M. de la Rochetière, je n'en ai pas tenu compte. Et qu'avez-vous fait? Je me suis aussitôt transporté au domicile de M. Taillefer. Où vous l'avez trouvé? Pas le moins du monde. « Monsieur Taillefer était absent ?»« Oui, monsieur le juge. Sa domestique, pressée de questions, m'a annoncé que, pouvant disposer d'une partie de la journée, le percepteur était sorti de grand matin pour aller se livrer à des études de paysage du côté de Bellefontaine. Je me suis rendu, escorté d'un de mes hommes, à l'endroit indiqué. Nos recherches n'ont pas été longues. » Au bout d'un quart d'heure, nous découvrions M. Taillefer qui, fort tranquillement assis sous son parasol, peignait un bouquet de bouleau. N'a-t-il pas laissé percer quelque émotion à votre arrivée? Non, monsieur le juge, j'ai cru un instant qu'il se trahirait, mon attente a été vaine. Il nous a proposé de lui tenir compagnie, puis, sans se départir de son assurance, nous a offert de vider à sa santé le restant de sa gourde de chartreuse. Tout en le remerciant, j'examinais du coin de l'œil certains fusils qu'il avait couchés dans le gazon à portée de sa main. « Ah, il était muni d'un fusil !» interrompit Claudius, sans chercher à dissimuler l'effet produit par cette révélation. « D'un fusil double, à percussion, dont un seul canon était chargé. » « Et comment M. Taillefer vous a-t-il expliqué la présence de cette arme ?» En faisant valoir le désir qu'il avait de tuer des gélinottes. Mais il s'est troublé en me donnant ces détails. Dès lors, l'évidence ne pouvait plus être mise en doute. Il y avait presque flagrant délit. Et ce qui m'a confirmé dans cette opinion, c'est un mouvement, aussitôt réprimé, qu'a fait M. Taillefer comme pour cacher son fusil dans les fougères. Vous vous êtes emparé de l'arme? Bien entendu, monsieur le juge. « Je tiens dès maintenant à vous féliciter du zèle que vous avez mis en cette circonstance au service de l'ordre public. Je me souviendrai de vous en temps opportun. Introduisez le prévenu. » Le brigadier, enchanté de cet accueil, salua militairement et sortit. « Eh bien, me suis-je trompé ?» dit rageusement M. de Montbel, qui, décidément, allait de mieux en mieux. « Nous en reparlerons plus tard, » répliqua Claudius. « Je ne vous donne point encore gain de cause. » Le brigadier ne fut pas long. Il reparut, précédant Julien, qu'un grand diable de gendarme à barbiche rousse tenait par le poignet. Diane et le vieux Dominique, qui, au milieu de ses complications, semblaient plutôt, sans trop en avoir l'air, prendre les parts de sa maîtresse que celle de son maître, suivaient. Derrière eux, la porte, momentanément entr'ouverte puis refermée, montra la foule des bouviers et des journaliers accourus dès que le bruit de l'arrestation du percepteur s'était répandu. Entassés au dehors, impatients, tous ces gens se montaient les uns sur les autres, la face rouge, les yeux écarquillés, le cou tendu pour mieux voir. en sortant de l'auberge, à peu de distance en deçà de la grille de Verbois, Mademoiselle de la Rochetière avait croisé les gendarmes qui revenaient avec leur capture. Devant eux, de peur de compromettre la jeune fille, Julien n'essaya pas de s'expliquer. Il lui fit seulement signe de se taire, sourit pour la rassurer et passa. Mais elle, chancelante sous ce nouveau coup de sa destinée, complètement folle, retourna sur ses pas, décidée à ne plus se séparer de lui. Elle se déclarerait satisfaite, pourvu qu'on lui permît d'aller là où on le conduirait. Quant à ce qui la concernait personnellement, il adviendrait ce qu'il adviendrait. Julien valait mieux que tout. Au point d'excitation où, l'inexplicable résistance de son père aidant, elle était parvenue, l'ardeur de son dévouement annihilait toutes ses autres facultés. À la vue de sa fille, le baron ébahi se dressa et courut vers elle. « Toi, s'écria-t-il, ta place n'est pas ici. » « Vous vous trompez, mon père, répondit Diane affreusement pâle. Elle est là où il y a un danger pour celui que j'aime. » « Tu ne comprends donc pas, malheureuse enfant, qu'à partir de ce jour, ta réputation sera compromise ?»« J'en ai assez souffert, j'ai assez pleuré pour le savoir. Mais pouvais-je éviter de venir le consoler ? Je me regarde comme la femme de M. Taillefer, entendez-vous ? Je serai sienne ou je ne me marierai pas. » S'il doit tomber victime de quelque machination, lâchement tourdie par des rivaux moins heureux que lui, je réclame hautement ma part de sa peine. Frappez-le, je vous bénirai, pourvu que le même coup nous atteigne tous deux. Ah ça, elle a perdu la raison, fit M. de la Rochetière, les sourcils froncés, la parole brève. Tu vas retourner à Verbois. Dominique, que je charge de veiller sur toi, t'y accompagnera. Quoi qu'il puisse advenir, reprit Diane inébranlable, je demeurerai ici tant que le sort de M. Taillefer ne sera pas connu. Pressentant que les acrimonieuses remontrances du baron pouvaient bien n'être que le prélude d'un esclandre, le juge se hâta de le conjurer. Dans son intérêt comme dans le vôtre, mon vieil ami, dit-il d'un ton bas en prenant la main de M. de la Rochetière, je crois qu'il serait sage de ne pas attirer la curiosité du public sur vos dissensions. C'est juste, répondit le père, secoué par le tremblement d'une fureur concentrée, et vous aurez toujours plus de bon sens à vous seul que nous tous réunis. Quel reste ? Je me tais et j'attends ma revanche. À son tour, Julien, auquel personne ne songeait plus, se crut obligé d'ajouter ses exhortations à celles de Claudius. « Au nom de notre amour, dit-il d'un ton grave, avec cette voix chaude dont les inflexions allaient droit au cœur, au nom de cette vie future, qui, pour peu que nous sachions persévérer, fera envie aux anges, je vous en conjure, Diane, obéissez à votre père. Lui résister serait vouloir compromettre sans profit une cause juste et sainte, et, avec elle, l'honneur de mon nom, honneur dont vous ne douterez pas si, au fond de votre cœur, n'ont pas encore cessé de surnager quelques épaves de l'estime qui fit jadis mes rares jours heureux. « Douter de vous, moi ? S'écria Fiodore. Comment le pourrais-je ? » « C'est là tout ce que j'attendais, continua Taillefer. Avec ces quelques mots, vous avez comblé mes espérances les plus chères. Et, à présent, partez. Que nulle ombre d'inquiétude ne voile votre front. Allez-vous-en, sans souci de ce qui se fera derrière vous. Qu'aucune curiosité malsaine ne vous arrête en chemin. Votre robe d'innocence se souillerait au contact des indignités sous lesquelles on essaie de me fermer la bouche. Partez, il suffit que je reste seul au combat. Regagnez votre toit paisible, retournez à votre douce obscurité et, pour charmer votre solitude, emportez cette consolation suprême. L'heure de la réparation sera peut-être lente à venir, mais, dussé-je mourir à la peine, je vous atteste qu'elle sonnera. » Mademoiselle de la Rochetière céda, et ce ne fut que pour montrer qu'elle accordait à Julien ce qu'elle refusait à son père, car, dévorée d'inquiétude, elle ne devait pas tarder à reparaître. Le baron et le juge revinrent s'asseoir l'un près du marquis, qui n'avait plus aussi bonne mine, l'autre au milieu de la table. Berthelin, qui, d'abord, s'imaginait en avoir fini avec la peine, eut un soupir de regret en rangeant ses papiers. debout au fond de la salle, entre les deux gendarmes, entièrement vêtu de flanelle blanche, taillefer, libre de ses mouvements, attendait, la tête nue, le regard assuré, les bras croisés sur sa poitrine. Quand le silence se fut rétabli, sans se préoccuper autrement de Claudius, dont d'ailleurs il se méfiait, il s'empressa d'aller au-devant des explications que le juge de paix, accaparé par son greffier, ne semblait pas décidé à lui donner de sitôt. Voudriez-vous, monsieur, dit-il, avoir la bonté de m'expliquer en vertu de quel droit la gendarmerie s'est permise de m'arrêter ? Je n'ai rien à vous expliquer, riposta Claudius. Attendez que je vous interroge pour parler. Cependant, pour moi, poursuivit le juge, surtout après ce que vous venez de dire à ma filleule, il est évident que vous connaissez le motif qui nous vaut votre comparution. Par conséquent, n'insistons pas. Cela vaudra mieux pour tout le monde. Il reprit, après une pause. Vous vous appelez ? Jean-Marie-Julien Taillefer. Vous êtes né ? À Miliana, dans la province d'Alger. Votre âge ? 29 ans. Votre profession ? Vous ne l'ignorez pas si je ne me trompe. N'aggravez pas votre position par un entêtement ridicule dont vous pourriez vous repentir. À cette heure, je ne suis plus l'ami que vous avez connu, ne l'oubliez pas. Votre profession ? Répondez. Percepteur à Sassenage. Vous êtes accusé d'avoir voulu assassiner M. de Montbel dans des circonstances telles qu'aucune dénégation ne pourrait atténuer le flagrant délit. Qu'avez-vous à répondre ? Monsieur le juge, dit Julien, décidé à se défendre pied à pied, si la nuit, pendant que, la tête pleine des visions trompeuses du rêve, vous dormez profondément, quelqu'un vous réveillait en criant « Levez-vous, on vous accuse d'avoir poignardé l'individu » ou la pauvresse qui passait devant votre seuil, que répondriez-vous ? Encore un coup, clama Laurence, je vous répète que vous n'avez pas à me questionner. Je me suis exprimé de la sorte afin de rendre plus visible l'étrangeté de l'accusation que vous élevez avec tant de peine. Comment, parce qu'un marquis de je ne sais quoi a été victime d'une tentative criminelle, vous venez me chercher querelle à moi qui ne le connais ni en blanc ni en bleu, à moi qui n'ai aucune animosité contre lui ? Mais enfin, quelle preuve avez-vous de ma culpabilité ? Voyons, où sont-elles ces fameuses preuves ? Je vous mets au défi de vous en servir. Défier n'est pas répondre. Reconnaissez-vous ce fusil ? Ajouta Claudius en faisant passer à Taillefer l'arme que le brigadier avait saisie. Assurément, c'est le mien. Et vous était-il une absolue nécessité pour les études auxquelles vous prétendez que vous vous livriez ? Je l'avais emporté sans penser à mal, ayant, ainsi que beaucoup de gens, la manie de courir après le petit gibier. À combien de reprises vous en êtes-vous servi ce matin ? J'ai fait feu une seule fois sur une linotte qui ne s'en porte pas plus mal pour cela. Quelle heure était-il, alors ? À peu près 6h30. N'était-ce pas après 6h30 ? Oh non, monsieur ! À 7h, en prenant le soleil pour horloge, je causais depuis un bon moment avec une personne qui était venue me rejoindre. Peut-on savoir qui est cette personne ? Pardon, monsieur, répliqua fièrement Taillefer, je suis français et, comme tel, incapable de trahir. Claudius eut un haut-le-corps. Le coup l'avait touché au bon endroit. Pour se mettre à l'unisson, il reprit, soulignant chaque mot d'un trait de l'ironie qui lui était familière. Le médecin dont j'ai réclamé les secours extraira les plombs de la blessure de M. de Montbel. Nous les comparerons avec ceux qui sont encore dans le canon de votre fusil. Ce sera le seul moyen de savoir si c'est une linotte que vous avez ajustée. Monsieur, dit Julien d'une voix vibrante. Plaît-il ? Vos doutes sont autant d'offenses qu'un autre que vous paierait cher. Dans votre bouche, ils me surprennent douloureusement. Parce que, demanda froidement le juge. Parce que, répliqua-t-il avec énergie, j'ai prouvé, et vous le savez très bien, que je suis de ceux que le soupçon n'atteint pas. Claudius hocha la tête. Pour le présent, je vous l'accorde, fit-il. Or, le présent d'un homme, quel qu'il soit, n'a jamais répondu de son passé. La physionomie du percepteur s'attrista. « Ce passé, dit-il, vous allez le connaître. » Mon père, lieutenant-colonel d'un régiment de cavalerie, mourut, il y a déjà de nombreuses années, victime de l'abnégation qu'il mettait au service de son pays. Il n'était pas riche. Sa solde suffisait à peine aux dépenses de son intérieur. Cela est si vrai que, ses funérailles payées, il ne resta plus entre les mains de sa veuve qu'une somme qui eût peut-être satisfait à nos besoins quotidiens, mais qui était trop minime pour faire face à des dettes anciennes. Moi, je venais d'avoir 6 ans, et si les secours devaient venir de quelque part, ce n'était pas de la peine que je prenais qu'il fallait les attendre. Ma mère, qui puisait toute sa force dans mes sourires, travailla tant bien que mal jusqu'au jour où j'eus atteint l'âge de raison. Vers cette époque, grâce à l'influence de ceux de nos amis que nos malheurs n'avaient point éloignés de nous, je réussis à être admis dans l'administration des contributions directes. Mon travail et mon zèle me firent bientôt remarquer. Mes chefs de service me promirent de l'avancement, mes appointements augmentèrent. Peu à peu et à force d'économie, j'éteignis les dettes de mon père, car je ne voulais pas que son honneur, cette relique qui lui était plus précieuse que la vie, pût jamais être attaquée. Cette prospérité relative ne dura pas longtemps. Je n'étais pas au bout de mon chemin de Damas. Je dus conduire ma pauvre mère à sa dernière demeure. J'avais trop souffert à Paris pour que je pusse y vivre en paix. Je sollicitais un changement qui me fut accordé. On m'envoyait ici. J'acceptais ma situation nouvelle sans murmure. Il fallait manger et les larmes ne donnent pas du pain. Voilà ce que je suis. Selon moi, l'homme qui a derrière lui de telles preuves de sa probité commet une faute impardonnable en cherchant à justifier ses actes. Ce qui, en d'autres termes, signifie que vous perdez votre temps si vous vous attendez à ce que, bénévolement, je consente à endosser les attentats d'un autre. » La franchise du percepteur était trop évidente pour que les convictions du juge n'en fussent pas tant soit peu ébranlées. Mais, craignant d'être la dupe d'un comédien retors, il n'en voulut rien laisser paraître et répondit, avec l'accent de la plus parfaite indifférence, « Vos allégations, si ingénieuses qu'elles soient, ne peuvent prévaloir contre les preuves matérielles qui vous écrasent. Croyez-moi, des aveux sincères vaudraient mieux que vos rodomontades. Je n'ai rien à avouer, je n'avouerai rien. Faites de moi ce qui vous plaira. C'est votre dernier mot ? Vous l'avez dit. N'en parlons plus. » Claudius fit un mouvement brusque et se redressa. « Au nom de la loi, ajouta-t-il d'une voix forte, je vous arrête. »« Ah, miséricorde !» s'écria Diane qui avait tout entendu. « L'aventure tourne au burlesque, mâchonna Taillefer. « Bénissez le sort qui a permis que vous vous rencontriez avec ma filleule, lui dit le juge, car, sans la pitié qu'elle m'inspire, vous sauriez déjà comment je traite les prévenus qui se permettent d'ajouter l'insolence à leurs inutiles protestations. » Puis, s'adressant au brigadier, « En attendant que j'aie conféré avec le procureur général, fit-il, écrouez cet homme au dépôt. Allez !» Il s'attendait à une résistance de la part du percepteur, peut-être même à une lutte. Il n'en fut rien. Le brigadier lui remit les poussettes et il se laissa entraîner, sans fournir à Claudius l'occasion de donner une nouvelle preuve de son autorité. Comme les battants de la porte se refermaient sur lui, Diane, haletante, se mit à crier dans un élan de passion. « Faites-moi place, je veux le suivre !»« Tu ne passeras pas !» articula froidement M. de la Rochetière en l'enveloppant de ses bras. Pendant ce temps, le juge présentait une plume et des papiers à Patrice. « Signez-moi ce procès-verbal, lui dit-il, et repassez-le à M. Berthelin. » Mademoiselle de la Rochetière avait compris l'inutilité de ses efforts. Les doigts nerveusement crispés sur le bras gauche de Claudius, elle murmura, la voix brisée. « Mon parrain, ne le condamnez pas. Prenez ma jeunesse, prenez ma vie, je vous donne tout si vous le sauvez. » « Pour toi, Diane, avoua Laurence profondément émue, pour toi, à qui j'ai donné une large part de ma tendresse, je regrette ce qui vient de se passer. Mais j'étais forcée d'agir comme j'ai agi, mon devoir me l'ordonnait, et même pour mes enfants, même pour ce que j'ai de plus cher au monde, je ne resterai jamais sourd à sa voix. »
Ah, je meurs !
Soupira Fiodor, dont le dernier espoir venait de sombrer. Et s'affaissant sur une chaise, elle laissa tomber sa tête dans ses belles mains opalines et sanglota.